rencontrons le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Soit 16h en studio, Valérie et moi. Je vous souhaite bien le bonjour à Chérie, j'arrive en cette édition du mardi. Madame Desmeules est de retour à l'animation après une petite absence qui a dû passer inaperçue là, ce lundi. Et je suis rejointe par ma co-animatrice du jour, Valérie Pitre. Bonjour, Valérie.
Allô.
Valérie, tu es là aujourd'hui car nous allons parler de danse.
Ben oui.
C'est à la Rotonde que seulement toi seras présentée. On va donc s'entretenir avec Anne Plamondon en tout début d'émission pour parler de ce spectacle. Et tu es la personne toute désignée pour le faire. Ce sera suivi à 16h30 de la présence de l'artiste du volet pro de l'ampli de la semaine. Et oui, c'est le spectacle qui aura lieu jeudi. Je parle de Mélina Lecoui. Donc, en entrevue et en prestation vers 16h30. Alex Télamarche, chroniqueur littéraire, devance un peu sa chronique. Il sera là aujourd'hui vers 16h45. Et on termine le show avec Simon Boudreau, auteur, metteur en scène de Je suis un produit, la production invitée du théâtre Labordé, qui est à l'affiche dès cette semaine sur les planches de ce théâtre.
Je crois qu'on va avoir un concours aussi.
Oui. Oh, ben là, tu vends des punchs, Valérie.
Oh, ben là.
tu fais bien. C'est vrai que nous aurons un concours. Je vous ferai tirer une paire de billets. Pour un spectacle.
Pour un spectacle. Restez à l'antenne si vous voulez le savoir encore plus. Tu vas pouvoir nous annoncer tout ça au courant de l'émission, j'en doute pas.
Tout à fait. Dans les prochaines minutes. Valérie, on va faire quelques découvertes musicales ensemble.
Oui.
On regardait ça d'ailleurs avant l'émission. Et c'est avec Carla Chanel, oui, tu vois, j'ai encore fait la même erreur que tantôt hors des ondes. Carla Chanel, c'est un peu qui est tout récent, oui, sur nos joues. C'est paru en mars, mais moi, je le découvre sur le tard. C'est pas parce que je baigne dans le milieu musical, visiblement, que je connais toutes les sorties.
Ah, ben, il y en a tellement.
Oui.
Faut se laisser une petite chance.
Voilà. Et donc, sur nos joues, qui est magnifiquement illustré avec des fleurs sur ses joues. C'est le titre Mandarine, moi, qui m'a bien plu, le troisième de 5, et c'est ce que j'ai envie de vous offrir en ce début de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Merci d'être à l'écoute.
Tu portes mon pull mandarine que j'avais choisi pour toi. Sans filant.
ça fait depuis, je ne sais pas.
D'entendre Mandarine de Carla Chanel sur les ongles de schiste 94.3. Et là, tu as vu, Valérie, j'ai dit ton nom comme il faut du premier coup. C'était ma sweet découverte de la semaine. J'ai bien aimé son EP, même si ça date de mars, comme je le disais précédemment. Il n'est jamais trop tard avoir un coup de cœur musical. Puis, dans mes plus récentes découvertes, il y a celle de Chris Béliveau. On le recevait en entrevue là, il y a un petit peu plus d'une semaine. Je lui ai demandé, ce n'est pas ni le frère ni le cousin du petit Béliveau. C'est un tout autre Béliveau, mais quand même, là, ils ont le même accent, ils viennent du même coin, ces deux-là. Puis, il y a quand même une énergie semblable dans la musique, dont je pense que son album, qui est un album éponyme, il s'appelle lui aussi Chris Béliveau, pourrait vous plaire, chers auditeurs et auditrices chisiennes. Je vous avais fait découvrir au moment de l'entrevue « Peux-tu voir la vie serait de même? » Et j'avais pratiqué la prononciation, approuvée par Chris. Exactement, donc il m'avait même félicité. Vraiment. Donc, j'avais eu son accord en ondes, semble-t-il que je l'avais bien. Puis là, c'est le titre « Swing la rig » que tu as choisi, Valérie.
« Swing la rig ».
Swing la rig.
Je sais pas si j'ai le bon accent, par exemple, mais...
Je saurais pas dire non plus. Je pense que tu pourrais le pratiquer encore un petit peu pendant la pièce.
Sûrement.
Oui. Et restez là parce que Anne Plamondon s'en vient dans les prochaines minutes. C'est la chorégraphe de renom qui est derrière le spectacle « Seulement toi » présenté à la salle multi de la Méduse dans les prochains jours. C'est du 23 au 25 novembre que ça prendra place. Oui. Sur cette salle, mais on vous en dit un tout petit peu plus dans les prochaines minutes.
Juste après.
Voilà, après Swing La Rig de Chris Béliveau sur les ondes de schiste 94.3. C'était Chris Béliveau et Swing La Rig sur les ondes de Chiz 94.3, dit-on avec notre très bel accent, oui, ouais, acadien. On ne l'a pas assez pratiqué pendant la pause, non, Valérie. Ça me fait plaisir que tu sois là parce que tu es ma chroniqueuse danse, mon experte oui. en danse. On en a parlé beaucoup cet été ensemble lorsqu'on a fait la tournée des festivals. Et puis, ben, ça tombe bien parce qu'on va parler de Seulement Toi, mm-hmm. un spectacle qui prend... Est-ce qu'on peut dire prendre l'affiche pour un spectacle de danse? Comment tu présenterais ça?
Ben, qui commence la diffusion à partir de demain. Ben, prendre l'affiche, oui, ça pourrait, en quelque sorte, j'imagine, là, mais
bon,
sinon...
Dont la diffusion ouais. débute ce mercredi. Donc, c'est Anne Plamondon qui sera avec nous là, dans quelques minutes pour nous parler de ce spectacle-là. Mais j'ai besoin de te poser une question cruciale, Valérie. Mm-hmm. Les tounes de Noël, c'est à partir de quand, toi? T'en voyais pas venir?
Si c'est juste moi, je dirais... 23, puis 25, puis après ça, ça finit là.
OK, bon.
Ça, c'est mon...
Un 48 heures de tonne de Noël.
Oui, c'est ça, 48 heures, ça suffit. Mais tu sais, disons que... Je suis pas ça d'habitude, là, début décembre, mais on est pas loin.
Mm-hmm. Okay. Bon, je t'avoue que moi, je suis plutôt dans la team 1er décembre. C'est une limite psychologique que je me fixe. Mais là... Il y a Georgette qui vient de nous sortir Chanson Vivace, Georgette, mm-hmm. volume 1, avec une esthétique qui rappelle nos vieux vinyles de chansons de Noël que nous donnaient nos grandes tantes. Il y en a quelques-uns qui ressemblent à ça dans ma collection. C'est 4 titres qui sont parus là, depuis vendredi dernier. Il y a même un duo avec la Carotte Polaire là-dessus. Et je dois dire que, pour Georgette, je suis prête à faire une exception, car vous y verrez qu'il y a du feu. C'est une toune de Noël déguisée
ouais,
en toune d'automne.
Ouais.
Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne seriez pas ouais. au courant. C'est donc le titre Vanille que je vais vous offrir pour tranquillement vous mettre un petit pied dans le temps des fêtes.
Ah oui, avec le petit tapis blanc dehors, là, tranquillement, on sent que veut pas, ça s'en vient.
Mm-hmm. Alors, on fait le test, on voit si on est prêt pour cette première chanson à thématique hivernale, on va dire, avec Georgette. C'est tiré de Chansons Vivaces, le volume 1. Voici Vanille sur les ondes de Chiz 94.3. Dans mon monde au pain d'épices, D'entendre Georgette avec le titre Vanille sur les ondes de Schiste 94.3. C'est une chanson tirée de l'album Chansons vivaces, le volume 1, un EP. On pourrait donc s'attendre à d'autres chansons vivaces de la part de Georgette d'ici le temps des fêtes, car oui, tenez-vous bien, Vanille était une chanson de Noël. Il fallait le savoir pour s'en apercevoir. C'est une chanson de Noël déguisée, j'aime bien le dire. Question de se préparer, de se mettre dans le bain du temps des fêtes. Et Valérie, si ça me fait si plaisir que tu sois ma co-animatrice aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de danse. Oui. Ensemble.
Absolument. Et pour parler de danse aujourd'hui, on va principalement parler d'un spectacle qui prend l'affiche à partir de demain, donc du 23 au 25 novembre, comme tu l'as mentionné, à la salle Multi de Méduse. C'est un spectacle qui est présenté avec La Rotonde, donc le diffuseur en danse contemporaine ici à Québec. Et à l'autre bout du fil, nous sommes au téléphone avec Anne Plamondon, qui est chorégraphe et interprète dans le spectacle Seulement toi. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci.
Oui, merci de prendre un temps avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta toute récente création.
Ah, ça me fait plaisir. Merci à vous.
Oui, donc pour un public peut-être plus néophyte au niveau de l'univers de la danse contemporaine, comment pourrais-tu nous décrire cette création qui a été faite en 2020? Donc, comment tu pourrais nous décrire en quelques mots cette expérience que le public peut vivre à partir de demain?
Oui, alors, Seulement toi, c'est un duo entre deux danseurs, moi et James Gregg, qui est un danseur américain, mais qui a dansé longtemps pour BGM, entre autres, et Rubber Band. Donc, c'est un danseur que je connais depuis plusieurs années, que je l'ai vu évoluer dans sa carrière de danseur, et j'avais envie de faire un duo avec lui. Donc, je l'ai invité dans mon univers. C'est un duo qui traite du thème, et étrangement, comme tu l'as dit, c'est un duo qui a été créé en 2020, donc on devait avoir la première en 2020. On est de ceux qui se sont fait annuler 5 jours avant la première.
Ah non!
Et étrangement, les thèmes que j'avais commencé à explorer pour la première de 2020 sont devenus encore plus pertinents après la pandémie.
Mm-hmm.
Donc, on parle c'est des thèmes de communication, mais parfois peut-être l'incompréhension dans la communication, cette recherche de connexion avec l'autre, et parfois même, j'irais jusqu'à dire, une recherche d'identité, qui je suis avec l'autre. Peut-être même aller un peu trop loin que essayer de se trouver à l'intérieur de l'autre. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais pour moi, ça résonne. Des fois, on fait ça. Des fois, on se cherche dans l'autre. Puis finalement, on se rend compte. Puis de là, le titre, il y a seulement toi qui peux trouver ton chemin.
Wow! C'est intéressant tout ça. Donc vraiment, une œuvre qui nous permet quand même de plonger dans l'intimité de ce duo-là qui se présente. Donc, c'est ça, excuse-moi, il y avait comme un petit point virgule à tout ça. Dans cette pièce-là, il y a aussi mentionné quand même une recherche d'explorer les visages de l'amour. Donc, on le sait, l'amour porte plusieurs facettes. Donc, est-ce que tu pourrais, à partir de ce thème-là, nous guider vers les questionnements qui ont été développés à travers tout ça?
Oui, bien, c'est certain que quand on voit deux danseurs sur la scène, un homme et une femme, on s'imagine que c'est un couple. Oui, évidemment, c'est la relation la plus évidente qui peut être là. Puis effectivement, oui, elle est là. Mais ce que j'avais envie de peut-être donner des petites pistes pour que le public puisse voir d'autres genres de relations. Peut-être que c'est deux grands amis, peut-être que c'est des collègues, peut-être que c'est un parent avec un enfant par moment, ou carrément deux enfants qui s'amusent. Je voulais beaucoup beaucoup. Je voulais qu'il y ait un des éléments de jeu. Parfois, c'est pas du jeu. Parfois, c'est un peu plus complexe. Il y a de la tension, il y a certains conflits, mais aussi du jeu. Donc, je voulais que parfois, un vieux couple qui s'est déjà tout dit, puis qui sont plus à l'étape de s'entraider. Parce que, on a beaucoup de les accessoires. On utilise les vêtements comme étant des couches qu'on enlève, qu'on remet, qu'on se dit, cela dit, il n'y a pas de nudité dans le spectacle de danse contemporaine. Il y a parfois, il y en a. Pas dans le mien.
Pas dans celui-là.
Je le précise parce que je parle qu'on enlève les vêtements, on les met. Mais c'est plus qu'il y a des couches superflues, beaucoup de chandails un par-dessus l'autre. Une recherche de, bon, est-ce que c'est ça que je mets? Est-ce que, qui suis-je un peu?
La recherche de l'identité.
La recherche de l'identité. Et parfois, ben le vieux couple peut s'entraider à ben là, on passe le bras dans le bon espace du tissu. Donc oui, les facettes de l'amour, mais pas nécessairement juste d'un couple entre un homme et une femme, mais toutes les formes de relations et de que l'amour est nécessaire pour se comprendre.
Pour évoluer.
Pour évoluer, exactement.
Ah, je suis quand même assez curieuse parce que, étant dans le milieu de la danse contemporaine, j'ai eu la chance au cours des années de voir quelques pièces de toi, donc des créations que tu as faites, donc Mécanique nocturne et Les mêmes yeux que toi. À ce moment-là, j'étais toujours à ma formation. Mais il y a quand même un souvenir marquant d'une scénographie quand même très présente au travers de tes créations. Et là, dans cette œuvre-ci, on semble vraiment se diriger plus dans l'espace qui est proposé par les corps, donc par le duo qui œuvre sur la scène. Est-ce que je me trompe?
Oui, non. Ben, peut-être que tu parles, entre autres, de Mécanique nocturne, qui avait un décor assez imposant. Là,
oui, c'est ça.
Sur d'échafaudage, une longue barre de ballet de 30 pieds.
Ouais.
Et c'était un solo. Alors, il y avait un décor qui était presque comme un monstre, puis moi, j'étais toute petite dans ça. Là, cette fois-ci, j'avais un partenaire, donc je me disais, ben nous, on va habiter l'espace plus que... j'ai pas besoin d'un énorme décor. Mm-hmm. Et cela dit, c'est le décor est là pour venir appuyer l'environnement, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve, de quoi on parle. Parfois, c'est pas nécessaire, puis parfois, ben ça devient indispensable. Dans le cas de ce mantois, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour une œuvre d'une artiste visuelle, son nom c'est Roi Jean. Donc, c'est une série de 9 photographies de roses chinoises, d'un arbre chinois avec des épines, des petites feuilles vertes, donc on s'imagine que c'est le printemps. Et j'ai vu cette œuvre-là quelques années auparavant dans une exposition. Puis j'avais un coup de cœur, donc je lui ai demandé, est-ce que tu permets que j'utilise ton œuvre puis que je la grossisse puis que je l'utilise sur la scène. Mm-hmm. Donc, il y a un décor dans ce mantois, mais plus peut-être, on le voit très bien, je dirais pas qu'il est discret, mais il prend moins d'espace.
Moins d'espace, OK.
Il prend moins d'espace.
OK, bien c'est intéressant tout ça au niveau de comment l'évolution se fait aussi, puis les sources d'inspiration viennent créer aussi tout ce qui enveloppe l'espace puis la démarche de création, là. Donc c'est un beau cheminement qui se crée là, à partir d'un solo avec beaucoup d'installations, un échafaud, et là... plonger un peu plus dans le travail du corps. J'ai quand même une question par rapport, donc je tiens à le mentionner, tu as été membre de la compagnie Rubber Band Dance de quand même 2002 à 2015, tu as été aussi la co-directrice artistique, mais je suis quand même curieuse, ayant fait un stage là, au Domaine Forget il y a de cela quelques années.
Ah, pour vrai?
Oui, je pense que c'était même en 2012, si je me souviens pas, si je me souviens bien, c'était vraiment la première année que vous étiez au Domaine Forget, puis je me demandais justement, ayant quand même parcouru plusieurs années au travers de cette compagnie-là. Est-ce que tu dirais que le travail de Rubber Band s'inscrit quand même dans la proposition de cette nouvelle création?
Peut-être pas dans la proposition, mais le travail de Rubber Band est imprégné très, très fort en moi. Je veux dire, j'étais la muse de Victor, d'abord. On est aussi dans la vie un couple, hein? Bon, les gens qui nous connaissent un peu. Donc, c'est sûr qu'on a développé la signature de Rubber Band ensemble. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très proche de moi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, toutes des influences en danse depuis le ballet classique, quand j'ai dansé en Europe, le travail de Gary Killian, le travail de Crystal Pite aussi, oui, que j'ai beaucoup travaillé avec elle. Ce sont tous des influences très, très présentes quand je crée. Ça, c'est sûr. Puis je les aime tous, puis je les prends toutes. Je pense que ce qui fait... c'est ce qui est riche, c'est cette diversité d'influences et des approches que j'ai apprises.
Mm-hmm.
En même temps, tout ça, je le présente à ma façon. J'ai développé ma signature personnelle à l'aide de ces influences-là. Je ne dirais pas que quand on voit mon spectacle, c'est similaire à un spectacle de rubber band. Pas du tout. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais évidemment que c'est très, très, très proche de moi. C'est très, très proche. D'ailleurs, James a aussi dansé avec rubber band.
Oui, absolument.
Donc, je l'ai choisi aussi pour par hasard. Je l'ai choisi aussi parce qu'on avait un bagage en danse un peu similaire. Donc, il comprenait mon vocabulaire chorégraphique, mm-hmm. le type de mouvement qui m'intéressait et le type de puissance mm-hmm. qui m'intéressait d'utiliser dans mon travail.
Donc,
et toutes les influences sont absolument essentielles et plus on en a, plus c'est riche.
Oui.
Pourquoi souvent j'encourage les danseurs? Évidemment, le parcours de chacun appartient à chacun et il n'y a pas un chorégraphe qui se développe de la même façon. Moi, j'ai dansé longtemps pour d'autres chorégraphes avant moi-même de tenter la chorégraphie. Vraiment, tu sais, j'ai travaillé pour au-dessus de 30, 40 chorégraphes dans ma vie. Chorégraphes, vraiment.
Beaucoup d'expérience.
Donc, j'ai été interprète très longtemps avant moi-même de tenter la chorégraphie. J'encourage les jeunes danseurs à pratiquer la danse comme interprète avant. Mais encore là, il y a autant de parcours qu'il y a d'artistes, évidemment.
Il n'y a pas, effectivement, comme tu le mentionnes, il n'y a pas un bon parcours mieux qu'un autre, mais chaque parcours là, s'inscrit dans le chemin de chacun là, avec le temps et tout. Donc, c'est quand même un bon conseil, à mon avis, là, pour tous ceux qui sont aux amorces là, d'un développement en danse contemporaine comme carrière, là, d'effectivement plonger dans les univers chorégraphiques de plusieurs chorégraphes permet de développer sa propre pratique, puis en ce sens-là, ensuite développer sa démarche chorégraphique, si le souhait est de devenir chorégraphe aussi. Donc, c'est pas tous les interprètes qui souhaitent devenir chorégraphe, mais...
Effectivement, aussi, et c'est très bien comme ça. Mm-hmm. On en a besoin des interprètes dans l'âme, des interprètes qui sont beaucoup très dévoués à un chorégraphe, qui sont prêts à s'investir plusieurs années dans le cheminement d'un chorégraphe et vice-versa. On a besoin de ça.
Oui. Eh bien, merci, Anne. Je tiens quand même à mentionner, avant de te quitter, que les gens sont invités à rester à la présentation de ce jeudi 24 novembre parce qu'il y aura une discussion avec les artistes, donc avec toi et avec James.
Oui.
Donc, une belle discussion.
J'aime beaucoup... merci de le mentionner parce que j'aime beaucoup... ce genre de rencontres.
Ah, c'est des rencontres très pertinentes, puis surtout pour les gens qui veulent en découvrir plus sur la démarche, qu'est-ce qui a inspiré le processus, puis vous entendre en tant qu'artiste et interprète dans l'œuvre parler de votre expérience. Là, je crois effectivement que c'est toujours des moments très, très appréciés, autant pour les artistes que pour le public.
Merci
beaucoup, Anne, pour ce temps. C'était vraiment très apprécié. Puis je te souhaite de très belles représentations cette semaine-là pour les trois représentations du 23 au 25 novembre.
Merci. C'est un plaisir. J'aime être à Québec.
Ah oui, mais merci beaucoup. Puis bon séjour à Québec.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Un grand merci à Anne pour Seulement Toi et merci à toi également. À Seulement Toi, Valérie!
Oh, mais c'était tellement le fun!
Pour cet entretien.
Que des moments formidables de pouvoir apprendre sur les processus des artistes puis de voir qu'est-ce qui les inspire. Puis, je trouve ça tellement formidable!
Anne a réussi à me faire réaliser quelque chose. C'est vrai que moi aussi, quand je vois un duo de danseurs danseuses sur scène, je les considère comme un couple, alors que...
C'est vraiment intéressant, cette notion-là, parce que c'est rare, je pense, qu'on va avoir cette réflexion-là. Si on voit un duo de femmes ou un duo d'hommes, on pense plus à l'aspect technique où on observe vraiment plus au niveau des rapports corporels que d'amener ce questionnement-là de c'est un couple où ils veulent représenter un couple. Non, effectivement, il y a plusieurs aspects dans l'idée des relations qui se créent et les relations sont sous toute forme.
Tout à fait. J'étais contente qu'elle le souligne. C'était un de mes angles morts que je verrai désormais lorsque j'assisterai à un spectacle de danse.
On vous invite vraiment à y aller. Ça vaut la peine. C'est du 23 au 25 novembre à 20h à la salle Multi de Méduse. Si vous êtes intéressé, allez sur le site de la Rotonde et vous allez pouvoir directement acheter vos billets.
Il y a un tarif pour les ados, je le souligne toujours. Mm-hmm. C'est une superbe opportunité pour initier un adolescent et une adolescente au milieu de la danse à la Rotonde. Merci encore, Valérie. Nous,
merci,
on va en très courte pause. Ce sera suivi d'une chanson de Clara Daly, Rengaine, qui est parue la semaine dernière pour cette toute nouvelle artiste de Québec. Et on recevra Mélina Lecouy, dont le spectacle est ce jeudi du côté de l'Ampli, pour une entrevue et pourquoi pas une perfo. Tout ça à HS 94.3.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expect depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu me blâmes ou me condamnes, je sais pas.
C'était Rengaine de Clara Daly sur les ondes de Schiste 94.3. Chérie, j'arrive, se poursuit jusqu'à 17h30. Madame Desmeules à l'animation, toujours accompagnée de Valérie Pitre à mes côtés. Mais là, on n'est plus dans la danse, non. On est dans la musique, bien que nous pourrons avoir encore envie de danser à l'écoute de cette musique. On vous parle d'un concert qui s'en vient ce jeudi. C'est du côté de l'Ampli, dans le cadre de la série des membres, le volet pro. Et c'est Mélina Lecoui qui offre ce concert jeudi. Et... elle est avec nous pour en parler aujourd'hui en studio. Allô, Mélina.
Salut.
Comment tu vas?
Je vais bien, vous?
Très bien également. J'ai vu, Mélina, que tu as apporté ta guitare.
Tout à fait, oui, pour une petite prestation.
Avec plaisir, après l'entrevue. Et bon, ça, tu les as pas en main propre, mais tu offres aussi une paire de billets pour le spectacle aux auditoristes.
Ben oui.
Alors, restez pas trop loin du téléphone. À la fin de l'entrevue, j'ouvrirai les lignes et vous aurez la chance d'aller entendre Mélina... en live, ce jeudi, pour ce concert. Mélina, tu viens de Québec.
Oui.
Et ton son, on pourrait dire que tu es dans le folk, le jazz. Comment tu te situes dans cet échéancier de style musical?
Oui, ben déjà, c'est un bon début.
OK.
Ouais. Fait que j'ai folk, jazz, il y a un petit peu d'influence classique aussi, peut-être plus pour le prochain EP qui s'en vient. Ouais, c'est ça, des petites vibes latines aussi parfois. Un gros mélange, mais tu sais, c'est qu'on écoute plein de choses dans la vie, donc ça influence.
C'est ça, puis on parle, c'est rythme brésilien fait partie de la description du projet aussi, puis je me disais, ah, OK, elle sort ça d'où cette influence?
Ouais, ouais, ben peut-être qu'avec les arrangements, tout ça, on le perçoit un peu moins, mais à la guitare, je pense, j'ai beaucoup écouté quand même de musique brésilienne, puis des guitaristes brésiliens que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Mm-hmm.
La musique arrive comment dans ton parcours, Mélina Lecoui?
Tu sais, je pense que comme beaucoup de monde, c'était à la maison, là, tu sais, que écouter de la musique, tout ça. Après, il y a ma mère qui a appris de la guitare quand moi j'étais jeune, puis c'était dans l'intention de comme nous donner envie, mais sans le dire, quoi. Ouais. Puis ça a fonctionné. Fait que j'ai commencé à apprendre la guitare jeune, puis ma tante m'a enseigné aussi, tu sais, elle a étudié en guitare, tout ça. Fait que, ouais, ça fait quand même un petit bout, là, que ça fait partie de ma vie. Ouais.
Pour le moment, tu as offert aux auditeurs, aux auditrices un premier EP, Promesse. Mm-hmm. C'est drôle parce que parfois, je fais des découvertes en recevant les invités, mais là, en me préparant pour l'entrevue, je me disais, mais je fais déjà jouer ça, moi! j'arrive! Donc, je connaissais déjà Promesse aussi, mais il y a un deuxième EP qui est en route. On parle de janvier 23, peut-être?
Oui, c'est ça, en janvier. Mais en fait, il est déjà produit tout ça. Puis pour le show, justement, je vais avoir des copies physiques. Puis ça va être comme une petite exclusivité.
Ooh, ouais.
Les chansons du deuxième EP sont déjà comme sur la copie physique.
OK, donc ça pourra faire partie du spectacle, probablement, je
l'ai dit. Oui, certainement.
Ouais. Est-ce que c'est ce projet-là que tu mènes avec le volet pro de l'Ampli actuellement? Ou c'est un EP qui était déjà...
Non, les deux ont été faits en même temps, en fait. Mais il y avait comme des arrangements assez différents. Fait qu'on voyait qu'il y avait comme deux projets. Non, avec le volet pro, ben, tu sais, c'est encore un peu à travailler, à déterminer, mais j'ai peut-être des idées, peut-être plus de vidéoclips, tout ça, puis sinon, vraiment focusser sur monter un show aussi. Oui, plus ça.
Les deux EP ont été faits en même temps, mais bon, avec des arrangements différents. Est-ce qu'au départ, tu pensais ça comme un album, puis comme c'était tellement distinct, tu te dis, ah non, il faut que ce soit deux disques différents?
Oui, ben, on a trouvé ça juste. Le fun, c'est de se dire de faire deux petits projets. Mais ouais, au début, c'est vrai que ça aurait pu être un album. Puis c'est par après qu'on s'est dit, OK, on dirait qu'il y a deux contenus.
Pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas?
C'est un projet solo, mais il y a quand même du monde autour de toi. Est-ce que la composition, l'écriture, c'est quelque chose qui part de toi ou vous faites ça en gang?
Non, ça a été composition, paroles, musique, c'est moi. Même arrangement pour le deuxième, tu sais, aux cordes, tout ça, je me suis comme essayée. Enfin, j'ai un peu étudié là-dedans, la musique de film, de jeux vidéo. Fait que c'est ça, je me suis essayée. Tu sais, je dirais, j'ai pas une grande expertise sur ça, mais je l'ai faite. Puis, sauf une chanson qui a été arrangée par François Richard. Mais non, je dirais que je m'implique quand même pas mal. Puis, mais après, c'est sur les instruments que je joue pas, tu sais, le drum, tout ça. Oui, ça a été fait en gang. Ouais. Mais la base, c'est moi.
Hey, musique de jeux vidéo, ça, je l'aurais pas entendu dans ton projet. Musique de film, peut-être, là,
mais je trouve pas gameuse en plus, là, mais c'est musique interactive, là, qu'ils appellent. Ça peut être aussi comme des petits jeux, en tout cas, comme sur le site de l'ONF. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est des genres d'univers un peu spécial, là, tout ça. Ça. J'ai quand même aimé. Là, mais...
OK, mais ça, c'est derrière toi pour
c'est
le moment.
C'est derrière moi.
OK, donc, terminer la musique des jeux vidéo pour moi dans le quiz. Là, les gens qui étaient en train de... Oh, on l'appelle après l'entrevue.
Non, c'est ça. Non,
pas pour ça. Ce qui va t'aussi offert au concert jeudi, c'est le carnet relié de tes paroles.
Oui.
Et c'est un objet d'art vraiment très beau.
Oui.
Je veux savoir comment est née cette idée-là de rendre ça, d'en faire presque un livre,
livret.
Je ne sais pas exactement quel titre tu accolerais à cet objet-là.
Ouais, ben oui, livret de paroles. Ben, tu sais, en chanson, je pense qu'on est attaché au texte quand même. Fait que c'est sûr que... Puis moi, juste la lecture aussi, ça fait beaucoup partie de ma vie. Donc, juste l'objet livre. J'aime ça. Mm-hmm. Puis c'est que j'avais lancé l'idée, en fait, à celle qui faisait le visuel déjà pour le EP, puis pour les plateformes, tout ça. Mm-hmm. Puis était déjà comme dans un processus de faire ça de son côté aussi. Des petits livrets de poésie, tout ça. Fait que c'est tout de suite à l'embarquer.
Ça allait combiner les deux idées ensemble.
Puis je trouve ça chouette. Ouais. Oui, le CD disparaît un peu, mais là, je me dis, c'est toujours le fun quand même d'avoir quelque chose de physique. Puis même le livret dans les CD, moi, j'aimais ça. Oui. Aller lire les paroles, puis tout.
Mm-hmm. Ouais. Il y avait toujours des surprises dans ces livrets-là, que ce soit dans les photos ou dans des textes ou des petits dessins.
Des témoignages.
Moi, j'ai eu des surprises en voyant ce qu'elle avait fait, justement, elle a intégré quelques photos, tout ça, une petite page transparente.
C'est de la petite magie.
Oui, c'est ça, interactif.
Ah, c'est le fun.
Fait que je trouvais ça chouette. Puis le côté relié à la main, tu sais, j'étais plus, on s'alignait plus fanzine un peu, là. Mm-hmm. Fait que, je suis contente de ce petit objet.
Donc, tu ne l'as pas pensé comme un livret de CD, mais en format géant. Tu l'as vraiment pensé comme un autre élément. Là.
Ouais. Mm-hmm.
C'est une excellente idée.
Absolument.
Ce que j'aimais des albums, c'était justement le livret de parole. Ouais. Moi, le disque, après, il prenait
le temps. Surtout que la pochette, elle finissait tout le temps par se péter un petit peu partout. Là.
Ouais,
fait que si tu gardais le livret, puis le CD.
Mais si on m'offre seulement le livret de parole, oui. Je vais acheter l'album sur Bandcamp, mais je vais acheter le livret papier des paroles. Ça me tente.
Ben oui, Fait que lançons le truc, là. Le mouvement.
C'est bon, mouvement lancé. Ouais. Et puis, je dis, sur scène, tu dis que tu veux réfléchir justement au volet, à la portion spectacle avec l'ampli. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui est seté, des gens avec toi sur scène ou tu es en spectacle solo, jeudi soir?
Non, on va être quatre. Donc, drum, percussion, c'est Marie Philode qui est au drum, percussion, qui va faire des voix aussi. Il va avoir Antoine Lemieux, Rinfray au clavier et Martin Plante à la basse. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça, c'est la formation, la plus complète, mais c'est ça, connaissant le marché, tu sais, l'industrie de la musique, tout ça, il faut avoir des formules un petit peu différentes puis qui s'adaptent
au salle ou à l'événement.
C'est ça. Mm-hmm. Fait que je pense que ça va être ça que je vais regarder avec le volet pro. Mais là, j'ai pu me permettre d'avoir beaucoup de monde. Mm-hmm. Fait que, allons-y.
Est-ce que c'est justement ce que tu as travaillé un peu pendant ta résidence à La Chapelle?
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est là on a développé une façon comme d'enchaîner certaines chansons, tout ça. Puis ça m'a plu, tu sais, de pas toujours parler entre puis de mettre un fil conducteur musical, tout ça. Donc, on garde ce qu'on a développé là-bas. Puis,
développer, dans le fond, la petite dramaturgie qui s'inscrit dans ton
spectacle. Oui, c'est ça. Mais là, c'était juste cinq chansons. Mais
c'est
ça.
Ouais. Super. Mm-hmm.
Et puis, Mélina, après la pause musicale, tu vas nous interpréter l'une de tes chansons.
Oui.
Là, est-ce qu'on aura droit à une primeur du deuxième EP ou on reste là dans ce que l'on connaît avec une chanson de promesse?
Ben, c'est même une primeur. C'est une nouvelle chanson qui...
Wow!
Mais c'est que le show, c'est ça. On va inclure aussi des chansons qui avaient été travaillées, tu sais, arrangées, mais qui ne seront pas apparues sur aucun des deux. Puis j'en ai juste... Elle, c'est vraiment une chanson très récente puis qu'on a arrangée en band, en fait. Là. Fait qu'on va la faire.
Merveilleux.
Ouais.
On casse des tonnes à Chérie J'arrive.
C'est ça.
Merci encore beaucoup d'être là, Mélina Lecouille. Donc, après la pause, c'est Mélina en prestation. On vous offrira aussi une paire de billets pour le spectacle de jeudi qui a lieu à 20h à l'Ampli. Et pendant que Mélina s'accorde, c'est Shinako et Navet Confi que je vous offre un tout nouveau EP en collaboration pour ces deux artistes-là. C'est paru la semaine dernière. Un micro-album inattendu, mais dont on est vraiment content. Il y a certaines chansons, en fait, de Shina remixées par Shinako. Et à l'inverse, c'est de la musique de Navet Confi qui est remixée après par Shina. Donc, ça vaut vraiment le petit coup d'oreille. C'est Parfait étranger que je vous offre pour découvrir ce tout nouveau projet sur les ondes de Chiz 94.3. Thank you. De retour à Chérie J'arrive, vous venez d'entendre Parfait étranger de Shinako, une collaboration avec Navet Confit. Le micro-album est paru la semaine dernière. C'est 4 titres remixés tantôt par Shina, tantôt par Navet Confit, auquel vous avez droit. Je vous rappelle que nous sommes toujours en présence de notre invitée du jour, Mélina Lecky, dont le spectacle est ce jeudi à l'Ampli, 20h. Et avant de vous offrir une paire de billets pour ce spectacle, ben on s'est dit qu'on allait vous offrir un petit avant-goût, chers auditorices, et vous permettre de l'entendre, Mélina, en prestation.
Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. Sous la neige se cache peut-être le dernier des printemps. Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. C'est le ciel en colère qui décidera s'il est temps qu'une tempête se lève. Se lève. J'aime que des animaux nous échappent parce qu'ils nous effraient. Le chant d'un pruant est plus précis quand il se cache dans une haie. Je veux qu'on laisse tranquille la grenouille à la peau fine. Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. Sous la neige se cache peut-être le dernier des printemps. Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. C'est le ciel en colère qui décidera s'il est temps qu'une tempête se lève. Se lève. Ta-da, 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 ta-da. Et des branches comme une chasse gardée. Des sommets restent inaccessibles si ce n'est que pour quelques rochers. J'aime que le vivant minuscule se cache dans l'invisible. Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. Sous la neige se cache peut-être un éternel printemps. Jamais la vie ne sera plus pareille comme avant. C'est le ciel en colère qui décidera s'il est temps que la tempête se calme. Se calme.
C'était Mélina Lecky sur les ondes de Chiz 94.3. Merci, Mélina.
Merci à vous.
Nous avons applaudi silencieusement en studio, mais nous avons applaudi quand même. Je rappelle que Mélina est en spectacle ce jeudi à l'Ampli, 20h. Et que tout de suite avant la chronique d'Alex Télamarche, où on parle de littérature, bien entendu, c'est le moment de m'appeler en studio si vous avez envie d'avoir une paire de billets gratuites pour le show de Mélina. 88-656-2215. C'est le moment de m'appeler et merci encore beaucoup, Mélina, pour ta présence en
bien,
studio.
Merci à vous.
À très bientôt. Courte pause musicale et nous accueillons Alex immédiatement en guise de consolation pour le concert de Command de bord de demain qui est annulé. Et oui, pour les gens qui avaient un billet demain, le Command de bord s'est remis en mai 2023. Je vous offre un tout petit extrait de Chandail principal. Faible consolation, mais bon, hein, on se réjouit comme on peut.
besoin de ton moyen de passer la soirée en terre du bain. Pourquoi jamais personne ne te montre à passer la soirée en terre du bain?
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95 en vente partout.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là.
Les Remparts de Québec visitent les Tigres de Victoriaville ce mercredi 23 novembre à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Tigres, ce mercredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Toujours à l'écoute de Chiz 94.3, chers fidèles auditeurs, fidèles auditrices. Chérie, j'arrive, est avec vous jusqu'à 17h30. Ce qui s'en vient pour cette fin d'émission, eh bien, on va parler de Je suis un produit, qui est la pièce de théâtre invitée, une production invitée, oui, au théâtre de la Bordée. On va s'entretenir avec l'auteur et metteur en scène vers 17h15 pour vous faire découvrir cette production qui nous visite. Mais pour le moment, on est en mode littérature et vous le savez, quand je parle de littérature, généralement, il y a le nom d'Alex Télé. La marche qui suit pas très loin derrière. Bonjour, Alex.
Bonjour, Andréane.
Je pense que tu vas bien.
Oui, oui, oui.
Un peu enrhumé, somme toute, mais...
Toujours un peu enrhumé.
Ah, toujours
novembre.
Un peu enrhumé.
Non, mais tu sais, octobre, novembre, c'est propice à ça. Puis heureusement, effectivement, bon, le temps des fêtes, généralement, on essaie d'avoir ça derrière soi. Mm-hmm. Puis bon, à une certaine époque, on s'en souciait pas trop parce que la COVID n'était pas dans le décor. Ouais. Maintenant, c'est toujours un peu plus angoissant.
Tout à fait.
Il faut vivre avec l'angoisse.
Il faut vivre avec l'angoisse. Bon, ben, je te mets sur le mur des citations de l'année de Chérie, j'arrive après. Et puis, quoi de mieux pour calmer l'angoisse que lire avec un bon thé chaud? Mm-hmm. Et là, ce que tu nous conseilles de lire cette semaine, c'est des livres parlant de Nouvelle-France.
Oui, qui dans deux cas parle plus que de la Nouvelle-France et dans le troisième cas se concentre sur cette période. Mais comme dans les deux premiers cas, ce sont des paroisses, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont été établies à l'époque de la Nouvelle-France et que la plus grande partie des ouvrages traitent de cette époque, eh bien j'ai eu envie de les rassembler ensemble pour vous en parler. Donc on s'en va du côté de Vincennes, qui est entre Beaumont et Lévis, de l'île Perrault et finalement de la revue Nouvelle-France aujourd'hui.
Vincennes, ça ne me dit rien du tout. Traitez-moi d'inculte, si vous le voulez, très cher. Mais je n'avais jamais entendu parler de ce lieu.
Ben, c'est normal parce que c'est plus un lieu qui est très, très connu. En fait, c'est une ancienne seigneurie qui va être concédée à François Bissot de la Rivière en 1672. Donc, on fête ses 350 ans cette année, tout comme on fête les 350 ans de la concession de la seigneurie de l'île Perrault, dont on parlera tout de suite après.
Ouais.
Donc, ça a été concédé et la plupart du temps, souvent, une seigneurie égale une paroisse ou une seigneurie égale 3-4 paroisses. Et donc, ça rend les choses assez faciles, comme par exemple, bon, la seigneurie de Lauzon, grosso modo, c'est à peu près la ville de Lévis actuelle. La seigneurie, mettons, je sais pas, le vite comme ça, j'ai pas d'idée de seigneurie, mais la seigneurie, bon, de Beaumont, qui est juste à côté, grosso modo, c'est la ville de Beaumont. Mmh. Or, la seigneurie de Vincennes, c'est une seigneurie qui est à cheval sur Saint-Joseph-de-Lévis, donc à peu près Lauzon. Crozon et sur la seigneurie de Beaumont. Donc, la plupart des seigneuries ont connu une certaine postérité parce que elles sont devenues des municipalités par la suite et ben il y a un livre qui a été écrit sur elles. On a continué à en parler. Or, la seigneurie de Vincennes, ben, on en traitait toujours un petit peu, mais pas trop, quand on faisait de l'histoire de Lauzon, puis un petit peu, eux, mais pas trop, quand on faisait de l'histoire de la seigneurie de Beaumont. Et Gaston Cadrin a eu envie, effectivement, de se concentrer sur cette seigneurie-là et de la mettre en lumière dans cet ouvrage, La seigneurie de Vincennes, une histoire de Beaumont et de Lauzon.
C'est ça, on passait tout le temps à côté. Là.
Ouais.
En survol.
Et donc, il, pour nous faire découvrir la seigneurie de Vincennes, eh bien, il revient effectivement sur son histoire, notamment sur ses premiers propriétaires, la famille Bissot de la Rivière, qui met la main sur la seigneurie en 1672. Il nous parle un peu de ces gens-là qui vont rapidement devenir notamment des officiers dans les troupes de la marine. Il y en a un qui va être posté en Haute-Louisiane pour développer des relations avec les Premières Nations. Il y en a d'autres, effectivement, qui vont tenter d'être en affaires parce que, bon, le premier seigneur avait une tannerie et un moulin à farine à Lauzon, dans la seigneurie de Lauzon. Donc, ça l'a amené, effectivement, à s'intéresser à cet endroit-là. Et puis, on parle, effectivement, des seigneurs rois qui vont occuper les lieux pendant presque une centaine d'années. Et surtout, ce dont on parle, c'est également de ce moulin, le moulin de Vincennes, qui existe toujours aujourd'hui à Beaumont. Et tout à l'heure, je disais, il y a certaines seigneuries qui sont devenus par la suite des municipalités, des paroisses, et que c'est ce qui fait qu'on les connaît toujours aujourd'hui. Eh bien, ce qui fait qu'on connaît toujours la seigneurie de Vincennes aujourd'hui, c'est le moulin de Vincennes, qui existe toujours sur la rive sud de Québec, qui est fort charmant et qui mérite d'être découvert, et que Gaston Cadrin met en lumière dans cet ouvrage.
Donc, la seigneurie de Vincennes, un ouvrage complet sur cette seigneurie survolée autrefois par Gaston Cadrin.
Et donc, on retourne en 1672, qui était l'année de concession de la seigneurie de Vincennes à François Bissot de la Rivière, mais qui est également l'année de concession de la seigneurie de l'île Perrault, donc juste au sud-ouest de Montréal, à François-Marie Perrault. Cet ouvrage, justement, de Lise Chartier nous permet de mettre en valeur cette histoire-là dès les débuts de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Dans le cas de cet ouvrage sur l'île Perrault, on se concentre aussi beaucoup sur le 19e, le 20e siècle, la question scolaire, la question aussi des villes de banlieue qui commencent à naître. Mais pour débuter, effectivement, on débute sur la vie de François-Marie Perrault, qui est un véritable roman et dont Lise Chartier nous parle avec beaucoup d'à-propos. François-Marie Perrault, je dirais, c'est un malcommode.
Wow! OK, j'aime ça. Je me définis, je m'identifie comme malcommode, alors.
Ouais, mais pas malcommode comme toi. Tu sais, je te dirais, il va c'est mener d'abord, en fait, une mission... pour aller vers les Premières Nations, pour éviter une guerre en 1671. Et finalement, ben, cette mission-là va être un succès. Et c'est ce qui va lui valoir de recevoir cette seigneurie-là en échange. Il a toute sa vie eu de relations avec les Premières Nations et il profitait de ses relations avec les Premières Nations-là pour faire du commerce des fourrures. Commerce des fourrures qu'il faisait... En fait, il faisait un peu de traficage de fourrures, ce qui va faire royalement... qui va déranger... on va rester poli, le gouverneur Frontenac. Et le gouverneur Frontenac va dire « Très bien, il y a de la compétition, ben je te mets en prison. » Bref, il va y avoir une véritable embrouille entre Frontenac et Perrault. Finalement, ça va se téléporter en France. Perrault va être embastillé, donc un verbe qui existe pour mettre en prison dans la Bastille.
Embastillé!
Ouais, ça existe.
J'adore!
Pendant trois semaines. Et pour régler un peu le problème, on va l'envoyer gouverneur de l'Acadie, mais là-bas aussi, il va être mal comme mode. Finalement, il va être capturé par des pirates anglais qui vont l'amener en Martinique où il va mourir après avoir été torturé. C'est quand même assez trash. Il a notamment eu le supplice de la cale sèche. Ça, grosso modo, ça veut dire qu'on t'attache après une corde, qu'on te lance à l'extérieur du bateau jusqu'à peu près au niveau de l'eau. Puis là, ben, quand tu tombes à peu près à ce niveau-là, ben, on te remonte. Et ce qui doit pas être très, très bon pour la santé. Et il est décédé décédé effectivement des suites de ses blessures infligées par des pirates en Martinique. Donc, quand même une vie assez passionnante qui est bien mise de l'avant dans les premiers chapitres. Puis après, ben, on suit effectivement l'évolution de Lule Perrot, notamment son célèbre moulin. Il y a un des derniers moulins avant du Québec qui est sur l'île Perrot. Il date de 1707-1708. Également, une des plus vieilles églises au Québec, celle de Sainte-Jeanne de Chantal, qui date de 1774. Et les derniers chapitres traitent de vraiment ben, le 20e siècle avec les différentes villes qui sont là. Ils ont chacune leur profil. Notre-Dame de l'île Perrot qui est à 69% agricole grâce à la loi sur la protection des terres agricoles. Ensuite, Pointe-du-Moulin qui avait un projet de vraiment d'usine qui finalement s'est pas trop matérialisé, mais il y a eu un projet de mettre 1400 maisons dans l'après-guerre qui va encore une fois être freiné par la loi sur la protection du patrimoine agricole. Parce que, bon, ben dans les années 1960, 70, ben, l'après-guerre, il y a vraiment bon, l'expansion du bungalow et on va construire ça sur les meilleures terres agricoles du Québec. Et à un moment donné, ben, Jean Garon va se dire, non, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose, on va protéger les terres agricoles, on ne peut plus dézoner ça et il faut les utiliser pour se nourrir plutôt que construire des bungalows. Et donc, ben, après s'être développé un peu en banlieue de Montréal, l'île Perrot va être conservée. Et donc, Lise Chartier dresse l'histoire de cette île et l'histoire, effectivement, des villes qu'on y trouve dans ce petit ouvrage qui est publié pour les 350 ans de l'île Perrot.
Donc, l'île Perrot, rurale et urbaine, qui m'a permis de découvrir le mot « embastillé ». J'aime bien le mot, pas trop le concept, par contre, je tiens tout de même à apporter cette précision.
La bastille n'existe quand même plus depuis qu'elle a été démontée pierre par pierre. Donc, il y a peu de chances que tu te fasses embastiller, mais...
Mais voilà, rassuré!
Ça reste quand même... Quand il y a un verbe qui porte ton nom et que t'es une prison, tu peux dire que t'as réussi socialement.
Voilà, c'est le critère. Et une toute nouvelle revue d'histoire, Alex, qui porte sur la Nouvelle-France. Tu tiens dans tes mains le numéro 1.
Les amateurs d'histoire au Québec le savent, on est chanceux, on a plusieurs revues. La revue Cap au Diamant, qui est la doyenne et qui met en valeur l'histoire du Québec de façon assez sympathique. Le dernier numéro porte d'ailleurs sur les sociétés d'histoire et est disponible en kiosque. On a également la revue Histoire Québec, qui est le fait de la Fédération Histoire Québec, qui essaye de mettre de l'avant des articles produits par des sociétés d'histoire. Et donc, ce sont deux revues qui traitent de l'histoire du Québec de manière générale, toujours avec un angle thématique. On a également des revues de sociétés d'histoire qui vont souvent être plus pointues, mais il n'y avait pas jusqu'à ce jour de revues de vulgarisation sur l'histoire de la Nouvelle-France. Mmh. Alors que c'est probablement la période qui intéresse le plus les Québécois. On a comme cette espèce d'aspect un peu mythique d'une époque où tout était merveilleux, tout allait bien, où il y avait effectivement bon, des vaillants chevaliers qui se battaient contre les pirates anglais. Donc, il y a un peu un aspect mythique, l'aspect des fondateurs, les généalogistes qui remontent jusqu'au tout début. Et donc, c'est toujours effectivement une période très prisée, comme en témoignent notamment les fêtes de la Nouvelle-France ou les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, qui est un autre gros festival de ce genre-là. Et Laurent Vessière et Sylvain Lombroso avaient tenté de faire une revue d'histoire de la Nouvelle-France en France, qui devait être diffusée au Québec et en France. Malheureusement, ben, comme elle était faite en France, qui avait d'importants coûts pour l'amener ici, eh bien, le projet n'a pas fait long feu, mais justement, c'est plutôt redirigé vers cette revue-là, la revue d'histoire de la Nouvelle-France, dont c'est le premier numéro. On est cette fois-ci dans une revue qui est produite au Québec, par des Québécois et par des Français. Hein? Et qui vise à mettre en lumière effectivement l'histoire de la Nouvelle-France. On le fait toujours avec un dossier thématique, dans ce cas-ci partir en Nouvelle-France, donc la question de l'immigration, et puis avec des rubriques thématiques et avec aussi bon des chroniques, notamment bon sur les livres, sur la Nouvelle-France ou bon des rubriques un petit peu plus sur le patrimoine ou sur des commémorations.
T'as répondu un peu indirectement, Alex, à la question que je voulais te poser sur la revue. Je me disais. Tout n'a-t-il pas déjà été dit sur la Nouvelle-France? Ben visiblement, non. Le besoin auquel ça répond, est-ce que c'est le critère que ce soit fait ici, écrit par des gens d'ici, ou c'est plutôt le côté de la vulgarisation historique qui te semble innovant pour cette
C'est plus le côté de la vulgarisation historique, parce que c'est fait ici et en France. Laurent Vessière est quand même un acteur important du milieu de l'histoire et du patrimoine en France. On a également d'autres professeurs français, notamment Didier Poton, qui est un professeur retraité de l'Université de La Rochelle, si je ne m'abuse. Éric Thierry, qui est l'un des auteurs, qui est également un professeur français, qui signe ici un texte sur l'histoire du père Marquette. Fait qu'il y a vraiment cette volonté-là de faire collaborer français et québécois sur l'histoire de la Nouvelle-France, mais dans une perspective de vulgarisation. Parce qu'il existe des revues scientifiques, notamment la Revue d'histoire de l'Amérique française, qui vont publier des articles sur la Nouvelle-France, entre autres. Mais ces articles-là, il faut effectivement vraiment aimer l'histoire de façon très, très pointue et très, très précise.
C'est dense.
Et c'est assez dense. Alors qu'ici, ben, vous êtes monsieur, madame, tout le monde, vous intéressez un peu à l'histoire de la Nouvelle-France, vous n'êtes pas un connaisseur, eh bien, ces articles s'adressent à vous. Et il y a toujours des nouvelles recherches qui se font sur l'histoire de la Nouvelle-France, donc toujours du nouveau contenu, même pour les experts, qui est intéressant, qui est proposé dans cette revue-là. Mais aussi, en tant que revue de vulgarisation, l'un des intérêts, c'est vous n'avez pas envie de lire le gros livre du professeur qui fait 350 pages, qui peut être un peu abstrait puis un peu lourd. Eh bien, ici, vous allez avoir une entrevue avec, vous allez avoir un article de lui, mais qui est dans un format plus léger, bien illustré, accessible. Et la revue est appelée à être publiée deux fois par année, avril et octobre. On peut s'y abonner si jamais ça vous intéresse et que vous désirez la recevoir. Deux numéros papier et numérique, c'est 34,95. Quatre numéros, c'est 64,95. Et si je ne m'abuse, on peut la recevoir à la maison. Donc, c'est vraiment un beau projet qui, on l'espère, aura une longue vie et permettra de faire connaître les travaux des historiens sur l'histoire de la Nouvelle-France.
Et c'est une revue qui, visuellement, en tout cas, est super belle à regarder et à feuilleter. Pas besoin d'avoir un post-doc en histoire pour consulter la revue d'histoire de la Nouvelle-France. Les non-initiés y trouveront leur compte, je crois. Merci beaucoup, Alex Delamarche, pour ces découvertes littéraires de la semaine.
Bien, ça fait toujours plaisir de vous faire découvrir des livres. Et donc, je les rappelle brièvement pour ceux qui voudraient se les procurer, que ce soit en bibliothèque ou en librairie. La Seigneurie de Vincennes, une histoire de Beaumont et de Lauzon, de Gaston Cadrin aux éditions Gide. L'île Perrault rurale et urbaine, 350 ans de Lise Chartier aux éditions du Septentrion et finalement la revue d'histoire de la Nouvelle-France, le tout premier numéro qui propose un dossier Partir en Nouvelle-France qui est disponible dans les bonnes librairies.
Merci beaucoup, Alex. On se retrouve la semaine prochaine, sans
faute. Avec grand plaisir.
Avec plaisir. Merci encore. Quant à nous, avant de s'entretenir avec Simon, qui est auteur et metteur en scène de Je suis un produit, qui arrive à l'aborder ce soir même, j'avais envie de vous faire découvrir l'une des artistes qui est demain soir au quart de finale, le quatrième de ma première place des arts. Chaque semaine, bien que je ne puisse pas assister à la compétition en direct de Montréal, je consulte tout de moins quels artistes vont performer. Qui est en compétition. Question de faire des découvertes, aller voir un peu ce qui se fait. Je vous invite à faire de même. Et c'est une chanson de Cayenne qui, oui, est encore de finale demain, que je vais vous faire entendre. Ça s'intitule « La route des baleines ». On sait que, comme l'artiste est originaire de la Côte-Nord, ça fait quand même partie beaucoup de son écriture. Je l'ai entendu performer du côté du Festival de la chanson de Tadoussac cet été. Et en effet, il y a quand même, on le sent, cette inspiration-là. Et voici donc « La route des baleines » sur les ondes de Schiste 94.3.
On s'ennuie tout du bon vieux Camille Marcoux sur la traverse Matane-Bec comme au Godbout. Sa cale était finie, mais au moins on pouvait traverser, s'enfoncer dans un vierge de quai. Ben, le problème de la traverse, il serait bien vite réglé. Sur le ministère du transport, il s'enlevait les doigts dans les pieds qui arrêtaient de patcher avec des solutions cheap. Moi, dire comme des jardins, mais des bons rien, ça vaut pas cher la livre. Pendant ce temps-là, ben, les baleineries nous autres, pis tout le Québec aussi. Pourtant, votre crabe pis vos crevettes, ben, ils sont pêchés. 7300 km de littoral, c'est pas si mal, mais en tout cas, on trouve pas ça à Montréal. Ça fait que si on suit la logique, prochain traversier va s'appeler le Titanic pour visiter votre précieuse Gaspésie, embarquer à Forestville, puis passer par Rimouski. On a l'argile, sapinages, les caribous, les belugas et les inous. On décide du gin qui fait, on brasse des bières qui collent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fague si. On suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis tirer au yacht.
C'était la route des baleines de Cayenne sur les ondes de Chiz 94.3. Cayenne qui sera demain soir à ma première place des arts. C'est le quatrième quart de finale que, oui, vous pouvez suivre si vous êtes à Montréal. Mais sinon, je vous invite à faire des découvertes seulement qu'en regardant un petit peu là, les gens, les artistes qui s'en vont performer de ce côté-là. Moi, cette semaine, ben, c'est Cayenne que j'avais envie de vous faire découvrir grâce à ce concours. Et on a abordé la danse, la littérature, la musique, pendant Chérie, j'arrive aujourd'hui. Et l'élément manquant pour que ce soit un tour de table pratiquement complet, ben c'est celui du théâtre. Alors, on s'en va remédier à la situation immédiatement avec Simon Boudreau qui est à l'autre bout du fil. Simon qui est auteur et metteur en scène de la pièce « Je suis un produit » qui arrive à l'aborder aujourd'hui même. Bien le bonjour, Simon.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Donc, c'est une première ce soir, mais pas exactement une première, là, parce que Je suis un produit a quand même été présenté auparavant au Théâtre de la Licorne.
Oui, exact. En fait, on repart en tournée. On commence la tournée ici, à Québec, à l'aborder ce soir-là. Pour seulement deux petites semaines.
Oui, il faudra faire vite parce qu'effectivement, là, c'est jusqu'au 3 décembre qu'on pourra voir la pièce. C'est une comédie. Mm-hmm. Écoute, on traite, il est question de l'histoire, puis tu pourras le raconter beaucoup mieux que moi parce que c'est ton histoire quand même. Mm-hmm. Mais c'est celle d'une femme musulmane qui est à la recherche d'un emploi. Elle n'arrive pas à en décrocher un. Et tout à coup, elle se dit, peut-être que si je porte le voile, on voudra m'embaucher afin de brandir haut et fort que ah ben on est pour la diversité ici là.
Exact. Donc elle c'est comme une immigrante de première génération, Jeanne, qui est aussi qui a son doctorat en anthropologie, mais là aussi elle se fait dire qu'un doctorat c'est trop intellectuel, c'est qu'elle va cacher ça en disant qu'elle a seulement une maîtrise. Et donc oui, elle va mettre le voile et elle va se faire engager dans une compagnie de marketing qui est en perte de vitesse parce qu'ils se font reprocher d'être juste une gang de blancs. Et donc, ils veulent remédier à la situation et ils voient Jeanne, leur bouée de sauvetage. Et elle se fait donc engager avec un voile qu'elle ne porterait pas dans la vie, qu'elle défend pas et contre lequel elle est contre. Mais là, elle doit donc le défendre vis-à-vis de ses collègues et le porter. Et elle va donc travailler dans cette compagnie-là et... Parallèlement à ça, Jeff, qui est comme un gay bitch sans filtre, qui dit tout ce qu'il pense, qui est le patron de la compagnie, va vouloir utiliser ses talents pour reconquérir son ex, parce qu'il est en fait d'amour et il veut utiliser ses talents marketing, donc pour parler de lui-même comme d'un produit et pour aider à reconquérir son ex. Donc, c'est une comédie, je dirais radioactive.
Oh, radioactive. Fort bien, oui. Donc, oui. Lui, il va essayer de se vendre. C'est ça, je comprends. Comme un produit, essayer de se vendre auprès de son ex. Simon, est-ce que c'est une histoire vraie qui t'a amené? Parce que comment tu le décris, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait réellement arriver.
Ben, je sais pas si ça pourrait réellement arriver, parce que quand même, je joue quand même avec des extrêmes. Fait que non, c'est pas une histoire vraie. C'est plus inspiré du réel ou en fait de notre société où l'image a plus de force que les nuances, bien sûr, mm-hmm. où on a besoin de capter les gens dans une image, qu'on va les enfermer dans une image, on va réagir à une image. Mm-hmm. C'est souvent on le voit dans les journaux, les gens vont réagir des fois à une image et ils lisent pas l'article, puis ils ont dit ah mon Dieu, quelle honte, telle affaire, mais ils ont pas lu que dans le fond c'est en train de dénoncer quelque chose. Tu sais, comme quoi des fois on va pas plus loin que l'image. Fait que c'est plus ça, puis donc, je m'amuse à tordre la réalité, à me confronter un peu à parler de l'instrumentalisation mm-hmm. de l'image, que ce soit de l'image des autres ou notre propre image qu'on peut aussi instrumentaliser.
Mm-hmm. Précédemment, tu avais en résidence abordé « Comment je suis devenu musulman mm-hmm. ». Est-ce que cette pièce-là s'inscrit comme une suite de « Comment je suis musulman » ou t'es complètement ailleurs avec Je suis un produit?
Ben, c'est pas vraiment une suite, parce que c'est une suite, ce serait des personnages qui continuent à grandir ou tout ça.
Tout à fait.
Non, c'est pas une suite, mais de Nilo, c'est-à-dire dans la rencontre de Houda Riani, qui est l'actrice qui joue Jeanne, qui est une grande actrice marocaine qui a joué dans beaucoup de séries là-bas, de films. Vraiment, c'est une vedette au Maroc, une grande vedette, et que moi j'avais rencontrée sur Comment je suis devenue musulmane, parce qu'on voulait, on avait besoin d'une coach d'arabe marocain, parce qu'on voulait que la famille parle l'arabe, mais l'arabe marocain.
Wow.
Et donc, elle était comme trop jeune pour le rôle de la mère, puis trop vieille pour le rôle de la jeune fille. Et donc, j'avais rencontré cette actrice-là qui avait coaché les trois autres, que je trouvais formidable, un coup de foudre artistique. Puis quand j'ai eu cette idée-là de pièce, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur le marketing, parce que je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est tous devenus des petits agents de marketing, parce qu'on va partager des choses qui vont dire quelque chose sur nos goûts, sur nos opinions. On va, tu sais, donc on veut que les gens aient une perception de nous d'une certaine façon. Et donc j'ai eu cette idée-là de pièce ou d'un personnage qui trafique un peu son identité pour avoir un job, et j'en ai parlé tout de suite à Houda, voir si elle défendrait ce rôle-là, si elle tentait d'embarquer dans le projet, était emballée par le projet, elle trouvait ça bien drôle, elle disait, mon Dieu, t'es tombé un esprit tordu. Et ça la faisait bien rire. Puis ben tout le long du travail d'écriture, elle a été mon interlocutrice, dans le fond, parce que oui, je suis un homme blanc de 47 ans, puis c'est sûr que la réalité, tu sais, j'ai une sensibilité d'auteur, je me questionne, mais j'avais envie aussi d'avoir son opinion à elle, son vécu, comment elle, tu sais, les mots que je mettais, est-ce qu'elle était d'accord? Ça amenait des discussions vraiment intéressantes tout le long de l'écriture.
C'est ça, donc elle a eu plus qu'un simple rôle de comédienne, c'est pas simple, mais quand même, elle a pu contribuer pratiquement, t'influencer dans l'écriture.
Ben, inspirer, amener des échanges, amener des réflexions. Fait que, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, comme auteur, tu sais, je trouve qu'on pigrasse un peu partout, tu sais, que ce soit quelqu'un qu'on croise sur la rue, une rencontre, un échange. Fait que c'est sûr que là, de nos échanges, j'ai mis des éléments qui m'amusaient, puis que j'ai, des fois, qu'on va changer l'angle, on va déformer, mais que je vais mettre dans la pièce.
Elle te sert d'inspiration, certes.
Oui.
Tu disais bon, qu'on est un peu tous comme des produits, on se vend, on est des genres de petites PME nous-mêmes. Est-ce que toi-même, Simon et Boudreau, tu te considères comme un produit?
Ben, non, dans l'absolu, non. J'espère que non. Mais bien sûr que moi aussi, ma réflexion est née de mon propre comportement que j'ai analysé, où je me rendais compte que sur les médias sociaux, selon qui j'allais liker, pour utiliser ce beau mot français, qui j'allais aimer, qui j'allais partager, ben c'est sûr que je choisis en fonction aussi de montrer. Tu sais, quand on like quelque chose, on montre qu'on aime quelque chose, on n'est pas simplement en train d'aimer quelque chose, sinon on n'aurait pas besoin d'aller cliquer pour dire « Ah oui, je suis d'accord avec ça ». Fait que là, on dit quelque chose sur nous, puis donc je m'en rends compte que, dans le fond, je devenais un peu un mini-agent de... Inconsciemment, bien sûr, mais un mini-agent de marketing, et on le fait tous de façon plus ou moins consciente, mais bien sûr qu'on dit quelque chose à chaque fois, on se présente d'une certaine façon, et je trouve que ça c'est décuplé par les médias sociaux, décuple ça par mille, parce que là, tout d'un coup, on est en constante représentation.
Puis c'est quelque chose qui est dit dans la pièce aussi, l'important, c'est de quoi vous avez l'air, ce que vous vivez, c'est pas ça qui nous intéresse, là. Si ça peut pas nous servir à quelque chose, ça nous intéresse pas.
Oui, ben exact. Mais là, c'est l'agent de marketing qui dit ça.
Qui parle,
justement. Ouais. Mais justement, oui, c'est l'idée. On veut une image qui se capte vite, tu sais. Puis on le fait dans la vie là, depuis la nuit des temps. Tu sais, on va regarder quelqu'un, puis dans notre tête, on va le caser quelque part, qui va être positif ou négatif. Il va être riche ou pauvre. Il veut nous demander quelque chose, ou nous, on veut lui demander quelque chose, ou c'est quelqu'un qu'on trouve charmant ou pas charmant, ainsi de suite. Fait qu'on place les gens dans des cases. Après ça, quand on donne la peine de rencontrer les gens, tout ça va, je l'espère, se nuancer. Mais au départ, on a ce réflexe-là. Et moi, comme auteur, je m'amuse, vu que c'est une comédie, je m'amuse aussi à jouer avec les spectateurs. Les spectateurs, au début, ils vont avoir une opinion des personnages, inévitablement. Puis j'essaie de jouer avec cette opinion-là, parce que ce que j'aime, c'est que mes personnages, ils sont ni bons ni mauvais. C'est-à-dire qu'ils vont, à un moment donné, on va se retrouver d'être d'accord avec celui qu'on aime le moins, peut-être. Et c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, de que le spectateur se retrouve un peu déchiré par rapport au jugement qu'il a.
Ah ben ça, quand une pièce réussit à me faire ça, je suis contente.
Bon, ben j'espère que je vais réussir.
Mais Simon Boudreau, un gros merci. Moi, je suis pas inquiète que tu vas réussir à le faire. Je remercie l'abordé de t'accueillir, en fait, jusqu'au 3 décembre. Accueillir la représentation, ça prend place dès ce soir. Est-ce que tu seras, par hasard, dans la ville de Québec pour la première?
Oui, je suis là pour 2 jours encore.
Ah, génial. Bon, ben le mot de Cambronne ne dit rien ensuite pour la première ce soir. Et merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Chiz.
Merci de l'invitation.
Bye.
Bye.
C'est donc « Je suis un produit », pièce pour laquelle il faut prendre un billet rapidement car il n'y a que 2 semaines de représentation pour la pièce qui est en tournée et qui s'arrête à l'aborder dès ce soir. De mon côté, Sophia Duhem est une autre de mes découvertes. Un nom de famille qui peut faire peur, là, mais je vous rassure, sa musique est bien, bien douce et polie. L'enfant est un micro-album qui est paru cette année en octobre. Et pourquoi je vous parle de Sophia, c'est qu'elle aussi, elle est à ma première place des arts ce soir pour le 4e quart de finale. Je vous le dit, là, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil à tout ça. C'est le titre « Ce qu'on aime » que je vous offre pour terminer cette émission de Chérie, j'arrive en beauté.
Est-ce que tu me aimes? Suis-je un de tes projets? Tu ne me traites pas comme on traite ce qu'on aime. Mais qui est cette fille-là que tu portes sous ton bras? Dès que je demande, je deviens le problème. Je souris à travers la peine. Je cache ma haine. Jamais tu ne verras la douleur que tu sèmes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour garder ce qu'on aime? J'ai trouvé une photo qui m'a mise en morceaux. Je savais ce que j'allais trouver, mais j'ai quand même cherché. Et demain comme hier, j'essaierai de te plaire. Tu me tendras la main pour me rejeter. À travers la peine, je cache ma haine. Jamais tu ne verras la douleur que tu sèmes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour garder ce qu'on aime?
Et c'est sur cette fluide transition que se termine cet épisode de Chérie, j'arrive sur les ondes de Schiste 94.3. C'était Madame Desmeules, directrice des arts à l'animation. Merci à Valérie Pitre, ma co-animatrice, de m'avoir accompagnée dans le début de l'émission d'aujourd'hui. Et bien sûr, merci à nos invités du jour. Je pense d'abord à Alex Télamarche, chroniqueur littéraire. Et puis, naturellement, à Mélina Lecouy dans le spectacle Et ce jeudi du côté de l'Ampli. On s'en va voir à l'aborder Je suis un produit qui est là jusqu'au 3 décembre. Et quant à nous, on se retrouve demain, mercredi, de 16h à 17h30, comme d'habitude. Je serai accompagnée d'Estelle Grignon demain, Nathan également pour la chronique cinéma, et peut-être de Chose sauvage, qui sait, car il y a un spectacle qui s'en vient. Restez à l'affût si vous avez envie de gagner une paire de billets. Chérie, je suis arrivée.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Yeah, it's for all my young kings out there. Just imagine what your mama go through. Imagine what that trauma like. This is a true story based on true events. Won't say no names, but I got a bunch of details from one of my homegirls. She lost her boy. Yeah. Let's go. His mama sat in his room, staring at space, empty, sniffing his clothes. From here on, a memory is just as good as it goes. He was close, good with the